Bonjour. Je suis vraiment heureux et je me sens béni d'être ici avec vous ce matin pour la deuxième fois. Merci. Aujourd'hui, on va un peu continuer la mini-série de deux que j'avais commencé la dernière fois. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, ce n'est pas grave. On pourra tout rattraper. Ça porte sur l'hospitalité. Aujourd'hui, on va ouvrir un petit peu cette perspective-là de l'hospitalité et on va voir l'hospitalité, bien sûr, entre les personnes, ce qu'on avait vu la première fois, mais aussi l'hospitalité entre les cultures religieuses. Puis je vais vous dire tout de suite, j'ai corrigé le mot culture religieuse tout juste à la dernière minute parce que j'avais mis d'abord entre les religions. Puis, finalement, on veut couvrir plus que ça. Évidemment, ça veut dire aussi accueillir le tout autre, celui qui croit en quelque chose de complètement différent. Mais c'est aussi les cultures religieuses chrétiennes, soit parce qu'on vient de pays différents, parce qu'on vient de pratiques religieuses différentes ou de dénominations religieuses différentes. Quand on se dit chrétien, on adhère à l'Église du Christ. Donc, on va aujourd'hui lire par morceaux les actes, acte 10. On va commenter un peu, on va revenir sur un autre morceau. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, l'hospitalité entre les personnes, l'hospitalité entre les cultures religieuses, entre dénominations chrétiennes et aussi entre religions abrahamiques. À quoi je me réfère? Abraham, c'est, on le considère, nous, comme chrétiens, comme notre père dans la foi. Mais on n'est pas les seuls à le considérer comme le père, comme notre père dans la foi. Les musulmans aussi le considèrent comme leur père dans la foi. Les juifs aussi, évidemment, le considèrent comme leur père dans la foi. On a quelque chose en commun. Les musulmans parlent d'Abraham comme le Hanif, c'est-à-dire de celui qui a la foi pure. C'est la première révélation, c'est lui qui la reçoit. Et il y a quelque chose qui commence à s'opérer à ce moment-là. Et puis, on a un attachement à cette foi-là, pure. Après ça, il y a eu des credos qui sont apparus, il y a eu des façons de croire, des cultes, des différentes perspectives, des moments historiques qui sont intervenus. Mais il y a quelque chose de pur là. On va essayer de le reprendre un petit peu. Donc, on va commencer par voir 10. Ça, c'est trop vite. Est-ce que c'est possible de retourner d'une diapositive? Et voilà. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille, les regards fixés sur toi. » Et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. En première hospitalité, évidemment, Corneille accueille le Seigneur. Et Corneille, il n'est pas juif. Et à ce moment-là, il faut voir que les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, sont essentiellement des juifs. C'est quelque chose de pas, entre guillemets, normal qui est en train de se passer. Parce qu'on considère chez les Juifs Jésus comme étant celui, comme étant le fils de la promesse, comme étant le Messie, celui que Dieu avait promis. Lui, Corneille, il ne croit pas à ça encore. Il n'en a même jamais entendu parler de ça. Puis, il y a eu une révélation à travers le contact qu'il y a eu avec, avec Christ, avec Jésus. Là, je vais préciser un petit point technique. Vous voyez, on dit vers la neuvième heure. La quatrième ligne, vers la neuvième heure du jour. Hein? Si on regarde notre montre, la neuvième heure, ou c'est le matin, ou c'est le soir, mais ce n'est pas le jour. Parce qu'ici, on utilise la traduction de Louis II qu'on utilise, utilise l'heure juive. Donc, le jour commence à 6 heures du matin. 7 heures, c'est une heure. Donc, quand on va parler de 3 heures, ça veut dire 9 heures le matin. Quand on va parler de la sixième heure, c'est le midi. Et quand on parle de la neuvième heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Et vous vous souvenez qu'est-ce qu'on situe aussi à 3 heures de l'après-midi? La croix du Christ. Donc, dans l'heure juive, c'est la neuvième heure. Toutes ces heures-là ne sont pas là pour rien. Ça correspond aussi à des moments de prière pour les Juifs, qui ont été gardés aussi dans la tradition monastique chrétienne chez les moines. Et encore aujourd'hui, les moines, à 3 heures, vont prier les nonnes. Nonnes qui veut dire neuf. Puis à 9 heures le matin, c'est la tierce qui veut dire 3. Donc des fois, ils ont gardé de la logique quand même, les moines, de temps en temps. Deux choses à souligner ici. Corneille donnait beaucoup d'aumônes et Corneille priait. On ne dit pas pourquoi, au juste. Mais il y a quelque chose qui est en train de brûler en lui. Ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler en lui. Il a rencontré le Seigneur. Et c'est hors de sa tradition. Le Seigneur l'a sorti de sa tradition polythéiste, de sa tradition romaine, pour l'amener à lui. Et puis là, il y a quelque chose qui ne saisit pas, évidemment. Parce qu'il n'y a pas le bagage. Il n'y a pas lu l'Ancien Testament, là. Il n'a pas prié en hébreu les prières juives. Il ne sait pas ce qui se passe. Et puis, il prie le Seigneur, probablement pour qu'il lui dise, « Explique-moi ça. Moi, je crois en celui qui est mort sur la croix. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Je crois qu'il est ressuscité. Mais il manque quelque chose. Il manque une tradition. On laisse ça en plan. On va à la prochaine diapositive. » On continue le texte. Et là, c'est particulier ce qui se passe. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchèrent de la ville, les envoyés de Corneille, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure, midi, pour prier. Il eut faim. On comprend pourquoi il a eu faim, il dit midi. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arrive jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Il y a de la nourriture qui vient du ciel. Il n'y a rien d'impur. Parce que là, vous savez que chez les Juifs, on ne mange pas de porc. On ne mange pas d'animaux charognards. On peut comprendre la considération. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des animaux qui, parce que quand on ne sait pas comment les apprêter, quand on ne sait pas comment les tuer, comment les faire cuire, ils peuvent être dangereux pour la vie. Et c'est toujours le Seigneur, ce qu'il cherche, c'est la vie des siens, la vie de son peuple. Qu'on vive bien. Donc, il ne veut pas qu'on soit malade. Il nous protège. Les lois nous ont protégés pendant un bout de temps. Mais là, maintenant, on abroge ces lois-là parce qu'on arrive dans la loi du Seigneur puis dans la loi de l'amour. Et puis là, les choses changent. Il n'y a rien de souillé. Tout ce que je vous offre est bon pour être consommé. Il n'y a plus de nourriture impure. Allez-y. Et ça, ça veut aussi dire rompre avec un grand tabou qui était de ne pas s'asseoir à la même table de quelqu'un qui mangeait de la nourriture impure. J'ai eu une grande leçon là-dessus quand je suis allé en Indonésie. J'arrive dans un village chez un de mes amis, puis on est quand même pas mal de monde, juste les poulets, c'est pas assez. On a dit, Martin, on va tuer un chien pour qu'on le mange. Les chrétiens, chez les chrétiens, c'est permis de manger du chien, mais pas chez les musulmans. Mais là, j'étais dans une famille chrétienne, donc il n'y a pas de problème. Et là, il faut penser à ça ici. Il n'y a rien d'impur. Ces gens-là ont vécu, ont survécu grâce à cette nourriture-là jusqu'à ce moment-là. Martin mange le chien. C'est très bon en passant. Mais on se tente vite. Mais c'est ça. Accepter d'être accueilli dans la culture de l'autre, c'est ça que ça veut dire aussi. On brise un tabou. On a toujours le prétexte, « Ah non, moi ça, j'en mange pas, c'est contre mes principes. » Et puis là, maintenant, le Christ abroge tout ça, puis dit, « Non, maintenant, va vers l'autre. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'aller vers l'autre. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'être accueilli par l'autre. Et il n'y a plus rien qui t'empêche d'accueillir l'autre. » C'est bien étrange, mais... Puis là, j'essaie de le cacher jusqu'à maintenant. Mais il y a un livre qui s'appelle le Coran. Et où il y a un texte, là, il dirait, qu'est-ce qui se passe, il va... Puis surtout avec ma barbe, là, qui fait intégriste un peu. Ils vont se dire, oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là? Et puis, il y a un texte qui ressemble, mais ressemble étrangement. Je vous dis ça tout de suite. J'ai perdu la page, mais je le retrouve. C'est dans la sourate cinquième, qui s'appelle « Le plateau servi » ou « La table servie ». Et puis, regardez bien la ressemblance avec le texte chrétien. Et ça parle de Jésus, évidemment, et en bien, évidemment. Et ça dit comme suit. « Quand les apôtres dirent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que le Seigneur fasse descendre du ciel sur nous un plateau servi, et lui de dire, craignez Dieu si vous êtes croyants. Ils dirent, nous voulons en manger, et que nos cœurs se tranquillisent, et que nous sachions qu'en effet, tu nous as dit vrai, et que nous en soyons témoins. Ô Dieu, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous un plateau servi qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier d'entre nous, ainsi qu'un signe de toi et nourris-nous, tandis que tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Dieu, je le ferai descendre sur vous. Après quoi, quiconque d'entre vous vient à m'y croire, alors oui, je le châtirai d'un châtiment dont je ne châtirai personne de par les mondes. Mais regardez, on met dans le Coran le fait que Jésus, que Dieu se reçoit à travers son repas. Ce qu'on va faire tantôt. C'est là aussi. Et regardez comme c'est une belle piste de dialogue avec d'autres. On sait, il y a des croyances complètement différentes chez les musulmans des nôtres. On a des points de rencontre. Et des points de rencontre particulièrement intéressants. Et forts. Et on considère que ce repas-là, celui que Dieu nous envoie, celui qu'on va partager aujourd'hui, ça vient de Dieu, c'est un signe de sa présence, c'est un signe que Jésus a dit vrai sur Dieu. Alléluia. On poursuit notre lecture. On peut donner une petite pause à la... Ben oui, parce que je l'avais à l'envers, moi, ici. Là, je suis encore trop loin. Là, c'est parce qu'il se posait d'avoir une diapositive entre les deux. Qui n'a pas l'air à apparaître. Mais on va la lire. En fait, c'est du verset 24 jusqu'au verset 29. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, c'est-à-dire ceux que Corneille avait envoyés. Pierre les fit donc entrer, ceux que Corneille avait envoyés, et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux, avec ceux que Corneille envoyait. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » On va le voir tantôt, le motif. Mais avant, maintenant, notre texte sacré, la Bible le déclare, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'être humain impur. Amen. Tous sont appelés à recevoir la parole du Christ. Là, vous vous souvenez peut-être, la dernière fois, je vous avais mentionné un passage, quand on faisait Acte 16, un passage de la Genèse sur l'hospitalité d'Abraham. Et puis là, ici, ce que Corneille a fait, finalement, en face de Pierre, c'est exactement la même chose d'Abraham. Il y a une connexion avec l'autre culture. Il a appris quelque chose de la culture des Juifs pour pouvoir recevoir le Juif en question. Parce qu'il est allé au-devant de lui et s'est prosterné comme Abraham l'avait fait. Regardez Abraham ici. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre et dit, « Seigneur! » Et Corneille dit la même chose. Mais là, Pierre lui dit, « Wow, moi, je suis juste un homme. Je suis juste un être humain. » Mais il y a toute une pratique là, qui est en train de se faire. On voit qu'est-ce que veut dire accueillir l'autre. Aller devant lui, l'accueillir comme s'il était Dieu lui-même. Ce qu'on nous demande dans Matthieu 25 aussi, hein? Matthieu 25, 35, « J'étais étranger, tu m'as accueilli. » Oui, mais on ne t'a jamais vu étranger. Quand tu as vu le plus petit d'entre mes frères, étranger que tu l'as accueilli, c'est moi. Ce n'est pas comme si c'était moi, c'est moi que tu as accueilli. C'est ce qui se passe ici. Et apprendre de la culture de l'autre pour pouvoir le recevoir. Est-ce que ça veut dire nier la sienne? Pas du tout. Parce qu'ici, il faut faire attention aussi. L'accueil se fait nécessairement dans la différence. On ne peut pas former une communauté en communion s'il n'y a pas des éléments différents. Si on veut s'uniformiser, on ne fait pas de communion. On s'uniformise, on s'assimile, on soumet. Mais la richesse de l'accueil et de l'hospitalité, c'est de conserver les différences, de mêler les différences. Il faut surtout que ça reste une différence, qui apprend à s'enrichir de l'autre. C'est ce qu'on cherche dans l'hospitalité, dans l'accueil de l'autre. Ce n'est pas du relativisme. Ce n'est pas de dire, ah ben moi, ce en quoi je crois, c'est à peu près la même chose que tous les autres, puis ensemble, on va faire un tout qui va avoir du bon sens. Non! Ce en quoi je crois, évidemment, je le considère comme supérieur, parce que c'est pour ça que j'y crois. Mais ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas m'alimenter là-dedans, que d'autres ne peuvent pas aussi avoir raison. Parce que Dieu, on ne peut pas le connaître avec notre intelligence, dans toute sa plénitude. On a accès à lui par notre intelligence, mais on ne le connaît pas dans sa plénitude par notre intelligence. On a besoin d'interaction avec les autres parce que Dieu se révèle aussi à travers les autres. Et ça, il faut les accueillir, les autres, tels qu'ils sont, avec leur culture, avec leurs différences, avec leur façon de recevoir très différente. Et quand on trouve d'autres, parfois, avec des comportements étranges, dites-vous bien que pour eux, nous avons les comportements étranges. Accepter le tout autre, avec ses coutumes, avec sa façon de faire, avec sa foi qui peut être différente, ça ne veut pas dire nier la sienne. Ça veut dire l'accepter avec ce qu'il est. Ça ne veut pas dire non plus essayer à tout prix de le convertir. Il faut être un témoignage de notre foi, oui. Et lui le sera probablement. Et là, il y a une rencontre qui se fait. Et là, c'est Dieu qui travaille, c'est l'Esprit qui travaille en nous. Quand il y a une rencontre entre des différents, l'Esprit travaille. C'est ce qu'on va voir dans le prochain texte. Mais là, je me rends compte que finalement, je m'étais juste trompé en haut, parce que c'était le bon texte. Hein? Bon, là, ça, c'est le 24-48. C'est ça, c'est le 34-48, puis l'autre, c'était le 24-29. Bon. Ça fait que je fais ça pour que vous m'accueillez dans ma différence. Merci beaucoup. Alors, Pierre, c'est bien 34, hein? Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué. Et le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le monde, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? » Aussi bien que nous, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Encore une fois, comme on a vu dans le cas de Lydie, hein, aussitôt que l'Esprit et que le baptême qui se fait en même temps que l'Esprit descend, il y a un don qui émerge. On offre l'hospitalité. Lydie avait fait ça avec Paul. Et puis là, ben, Corneille fait ça avec Pierre et les siens qui arrivent. On voit ici qu'au départ, hein, la communauté des baptisés est en soi. Aussi étrange que ça puisse paraître aujourd'hui, mais c'est en soi une communauté plurireligieuse. Les gens qui croient en Christ, c'est des gens qui viennent de plusieurs religions différentes, et non seulement différentes, mais opposées. Parce que païens et juifs, ça ne se ressemble pas. Et là, il y a l'action de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui fait tout, finalement. Qui ouvre notre cœur pour qu'on puisse recevoir Christ en nous. Et il agit. Et là, la foi croît. La foi grandit. Au départ, vous voyez, les chrétiens s'obstinaient pas tellement sur « Oui, mais est-ce que le Fils est homoousios du Père? Est-ce que l'Esprit procède du Père et du Fils ou seulement du Père via le Fils? » Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens se sont tués dans l'histoire. On ne se baderait pas de ces questions-là. Ce qu'on veut savoir à ce moment-là, c'est qu'on croit en Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Et parce que je crois en ça, parce que je crois que moi aussi, je vais ressusciter, je vais grandir dans ma foi, dans l'histoire, parce que l'Esprit m'a permis de voir ça, et c'est l'Esprit qui communique la grâce qui agit en moi, qui travaille. Et ça finira jamais, jusqu'à la mort, jusqu'au salut éternel. L'Esprit va travailler. Puis on aura à se poser des questions, à se dire, peut-être que je me suis trompé, peut-être pas finalement, à se recorriger, à se reprendre, à laisser les autres nous interpeller, à revoir ce qu'on croyait, à repenser ce qu'on croyait, à affirmer et à se réaffirmer dans ce qu'on croyait, continuellement. Et c'est ça la croissance d'un chrétien. En fait, être chrétien, c'est pas être parfait, hein? C'est se parfaire. C'est continuellement se parfaire dans sa foi, en Christ, avec la parole et avec l'Esprit. On écoute la parole pour se laisser inspirer. On laisse l'Esprit travailler ensuite. Et puis là, quand on se confronte aux autres, c'est là qu'on apprend nos erreurs, qu'on apprend nos bons coups. L'Esprit ne travaille pas selon les œuvres. Ça ne dépend pas du culte que je fais. On dit souvent, à raison, que personne peut être sauvé sans le Christ. Sauf qu'on a tendance à l'interpréter. Donc, si on ne croit pas que Christ est notre sauveur, il n'y a pas de chance qu'on soit sauvé. On oublie une chose, c'est que l'Esprit agit là où il veut, et c'est l'Esprit qui communique la grâce. Et dans l'Esprit, Christ est là. Les personnes de la Trinité, là, ça ne se divise pas. Ça ne dit pas, bon, ben moi, je vais aller à telle place. OK, pendant ce temps-là, moi, je vais en profiter pour aller à telle autre. Non. Quand on est en présence de l'Esprit, Christ, en sa totalité, est présent. Le Père, dans sa totalité, est aussi présent. Donc, illuminé par l'Esprit, Christ est là. Peut-être qu'on n'est pas capable de le nommer, parce que notre culture religieuse ne permet pas ça, parce que les gens ont cru en d'autres choses. Puis petit à petit, ils vont être amenés à croire en Christ. Mais il peut y avoir une véritable conversion sans que Christ ait agi, apparemment, sinon à travers l'Esprit. Le plus grand exemple de ça, c'est Paul. Paul, il ne croit pas au Christ. Il persécute les chrétiens. Et pourtant, l'Esprit agit sur lui. La conversion se passe là. Après, il va se rendre compte que finalement, Christ n'est pas celui qu'il pensait, mais c'est après. Et il est sauvé à partir du moment du baptême de l'Esprit, quand l'Esprit le frappe et le convertit, lui donne la foi, lui permet d'avoir la foi. C'est ce qu'il faut voir aussi avec les autres, que chacun, peu importe le credo qu'il porte, est un chrétien potentiel. Chacun est appelé à recevoir la parole du Christ. Chacun est appelé à être imbibé de l'Esprit-Saint, à se transformer, et chacun est appelé au salut éternel promis par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Pas nécessairement de la façon dont on voudrait, mais ça, c'est pas à nous d'en décider, c'est Dieu qui agit, parce que c'est pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est notre foi qui nous sauve. Mais là, quand on a la foi, ça transparaît dans nos œuvres. Et on ne peut pas mettre de côté les autres. On ne peut pas dire, moi, je m'isole dans mon coin parce que j'ai la foi et je serai sauvé, donc j'essaie de ne pas avoir de contact avec les autres pour pas qu'ils me contaminent. Non. À partir du moment où on a la foi, c'est là que les œuvres se mettent à opérer et on devient des agents de transformation pour notre société. C'est là qu'on peut faire en sorte, par nos gestes quotidiens, par notre implication sociale, par notre contact interpersonnel avec les autres, qu'on transforme cette société-là pour qu'elle soit plus conforme à ce que Dieu veut comme société. On n'atteindra pas par nos efforts, et ça c'est sûr, on n'atteindra pas par nos efforts le royaume de Dieu dans sa plénitude. Mais on va atteindre un reflet par nos efforts qui est donné par notre foi. On va atteindre un état de société qui va ressembler toujours de plus en plus à l'amour du Christ. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que l'histoire est là, et c'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Pour transformer ce monde-ci. S'il n'y avait pas d'intérêt à transformer le monde dans lequel on est, Dieu ne se serait pas fait homme. Il ne se serait pas fait humain. On a un rôle à jouer ici. Et ça passe par la transformation de nos relations. Et pour pouvoir transformer nos relations, il faut passer par là où Corneille est passé. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, accepter qu'on est des pécheurs et demander pardon au Christ et demander à l'Esprit qu'il fasse en sorte qu'il nous accompagne en Christ vers la vie éternelle. Amen. Ceux qui sont ici pour la première fois, ici, puis qui désirent faire la prière de la foi chrétienne, je vous invite à le faire, puis on va conclure ce moment-ci de cette façon-là. En fait, je viens d'en nommer tous les éléments, parce que c'est par là que Corneille est passé. C'est par là que tous les chrétiens passent à un moment donné ou à un autre. Mais ceux qui le désirent, je vous invite à vous lever, puis à dire avec moi, « Seigneur, je te reconnais comme étant mon sauveur personnel. C'est toi qui nous sauves, Seigneur. C'est par toi qu'on est sauvés. Je me reconnais devant toi comme pécheur parce que j'ai manqué à ta parole, consciemment ou inconsciemment. Mais je me reconnais comme pécheur et je te demande pardon, Seigneur. Envoie ton esprit pour qu'il m'accompagne au fil des jours, au fil de l'histoire, pour que je puisse être un témoin de ta foi, un témoin de ton salut, ici, dans le monde. Amen.